Bonjour à tous. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Romains 8, les versets 18 à 39. C'est un peu long, mais je pense que le contexte est important. Donc Romains 8, 18 à 39. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors le sujet, effectivement, être ou ne pas être, être ou paraître, avoir le salut ou ne pas l'avoir, c'est toute la question. Paul, par sa compréhension divine en ce qui concerne l'œuvre de l'Esprit, nous enrichit. Et à l'heure actuelle, je suis en train de lire un très bon livre que je vous recommande, le dernier ouvrage de Florent Varac, qui est intitulé « Le Saint-Esprit et les dons spirituels ». Très enrichissant. Et c'est vrai qu'à la lecture et avec ce qui se passe dans le monde, aussi dans le monde chrétien, j'ai souvent le sentiment qu'un membre de la Trinité est mis de côté dans le culte chrétien, dans les discussions chrétiennes, dans les enseignements chrétiens et dans la vie chrétienne. C'est le membre de la Trinité à qui nous devons le plus notre expérience chrétienne. Il n'est autre que le Saint-Esprit. En général, le culte chrétien d'aujourd'hui est plus attaché à son style qu'au contenu. Il s'agit davantage de sentiments et de sensationnel que de faits. Il s'agit davantage du soi-même que du sauveur. Il s'agit plus de thérapie que de théologie. Et il s'agit plus de sécurité que du sacré. Et il s'agit bien davantage de bons sentiments que de la gloire de Dieu. En nous efforçant de regarder au très triste état du culte chrétien actuel, nous sommes frappés de ce que nous accordons une attention très limitée à Dieu le Père. Nous chantons ses attributs, nous donnons une grande attention à Christ en chantant sa personne et son œuvre, mais nous ne parlons que très peu du Saint-Esprit. Et si nous devons adorer Dieu complètement dans sa totalité, nous devons adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De nombreux chrétiens connaissent très peu le ministère du Saint-Esprit. Et il y a tant d'erreurs qui circulent sur le Saint-Esprit que les gens évitent d'en parler, de peur de contredire la pensée populaire ambiante. Mais nous devons adorer le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit pleinement et avec toute la connaissance que nous avons de la révélation de chaque membre de la Trinité. Le Père a planifié la rédemption. Le Fils a pourvu au moyen de la rédemption par sa mort et sa résurrection. Et l'Esprit produit l'œuvre de la rédemption en nous. Il est l'agent qui actualise le plan que Dieu a initié, que le Fils a validé. Il est celui qui le met en action. Et nous devons comprendre le ministère biblique du Saint-Esprit. Les Écritures nous mettent en garde contre le fait de ne pas attrister l'Esprit. Lorsque nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. De ne pas éteindre l'Esprit, de ne pas insulter l'Esprit, de ne pas blasphémer contre l'Esprit. Et il n'est pas étonnant d'être mis en garde contre ces choses. Regardons ensemble les éléments qui sont clairement révélés dans les Écritures et que nous avons peut-être un peu laissé de côté en ce qui concerne le Saint-Esprit. Et nous l'avons appris, c'est le Saint-Esprit qui nous régénère. Jean 3 nous dit « Nous sommes nés de l'Esprit ». C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de notre propre justice et de jugement. Jean 16, le Saint-Esprit participe même à notre justification. Dans 1 Corinthiens 6, 11, il est dit « Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » 2 Corinthiens 3 nous dit que c'est l'Esprit qui nous sanctifie, qui nous fait passer d'un niveau de gloire au suivant en nous rendant semblables à l'image de Christ. Et nous avons appris dans Romains 8 que c'est l'Esprit qui confirme notre adoption en tant que fils de Dieu. L'Esprit réside en nous. L'Esprit nous donne son assurance en rendant témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 1 Corinthiens 12 dit que l'Esprit nous baptise dans le corps du Christ par lequel nous devenons membres avec tous les autres croyants. Dans ce même chapitre, il est dit que l'Esprit nous donne des dons spirituels par lesquels nous servons Christ et exerçons un ministère envers son corps. Et c'est le Saint-Esprit qui nous assiste dans nos prières. Dans Jude 1, 20, il est parlé de prier dans l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui nous affermit dans notre être intérieur. Éphésiens 3, 16, c'est l'Esprit qui nous guide. Tous ceux qui possèdent le Saint-Esprit sont guidés par l'Esprit. Et notre lecture de Romains 8 le confirme. C'est l'Esprit qui produit des fruits en nous, des fruits de l'attitude d'amour, de joie, de paix, de douceur, de bonté, un esprit de foi, d'humilité, de contrôle de soi et tout genre d'actes juste aussi. Et c'est l'Esprit qui nous permet d'obéir à Dieu. Et c'est l'Esprit qui illumine la parole et qui réside en nous en tant qu'enseignant de la vérité. De plus, le point déterminant de ces choses est que le Saint-Esprit sécurise notre gloire éternelle. Et tout ce passage de Romains 8 se concentre sur cette réalité glorieuse du salut définitif. Oui, le salut est définitif. Nous sommes protégés par la puissance de Dieu en vue de cette glorification finale, cet héritage préparé pour nous et qui reste le même, pur et réservé au ciel. L'Esprit assure notre gloire éternelle. Et dans les Écritures, il scelle le jour de notre rédemption. Il est la garantie. Il est la puissance de Dieu. Il est le protecteur de chaque croyant, jusqu'à ce qu'un jour, il soit celui qui nous élève à la gloire éternelle, comme il a élevé Christ de la mort. Et Paul, pour commencer, mentionne la glorification dans le chapitre 8 au verset 17, puis du verset 18 au verset 30, il nous donne ce grand argument glorieux qui justifie l'éternité de notre salut. C'est le fait que si nous sommes sauvés, c'est pour toujours. Et le point culminant de cet argument vient au verset 30 qui dit que quiconque est prédestiné par Dieu à être semblable à son Fils, il l'appelle en son temps, d'un appel efficace pour le salut. Et quiconque il appelle, il le justifie. Et quiconque il justifie, il le glorifie, afin que les personnes qui sont glorifiées soient les personnes qui étaient prédestinées. Et personne ne peut se perdre en route. Formidable. Personne ne peut se perdre en route. Et ce que Paul nous présente, c'est le dessein de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Paul nous dit donc que toute chose dans notre vie, quelle qu'elle soit, Dieu les fait concourir à notre bien éternel par sa gloire, par sa grâce, pour notre gloire. Car nous sommes les appelés selon ce dessein et nous entrons dans une relation d'amour avec lui. Le salut est éternel. Une fois qu'on est régénéré, c'est pour toujours. Et on peut ancrer son âme dans la confiance de l'espérance de la gloire éternelle. La question se pose, est-ce qu'une personne peut vous faire perdre votre salut? Malgré l'œuvre du Saint-Esprit, malgré le don de Christ et malgré le dessein de Dieu? Si ce n'est pas une personne, est-ce que cela peut être causé par certaines circonstances? Peuvent-elles nous submerger à ce point, être assez puissantes pour mettre notre salut en péril? Cela devient le sujet des versets 31 à 39 que nous avons lus. Et la première partie des versets 31 à 34 répond à la question, une personne peut-elle nous faire perdre notre salut? Et des versets 35 à 37, une circonstance peut-elle faire perdre notre salut? Puis il y a la glorieuse conclusion à la fin du chapitre. Paul présente la situation et nous allons simplement prendre le premier point à propos des personnes. Il présente ceci dans le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quelles choses? Les choses concernant le salut éternel. Le sujet dont il est question depuis le verset 18 concerne le salut éternel, que Dieu nous assure dans son dessein. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien éternel. Et si nous avons été connus d'avance, prédestinés à devenir semblables à l'image de Jésus-Christ, nous y arriverons et aucun d'entre nous se perdra en route. Et tous ceux qui sont appelés, bien sûr, qui ont répondu à son appel, c'est là toute la question, eh bien tous ceux qu'il a appelés sont justifiés et glorifiés. Et toutes ces choses qui sont liées au salut éternel ne peuvent être perdues. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quelle est notre réponse? C'est la question. Quelle est notre réponse? Quelle est la conclusion que nous voulons en tirer? Paul sait qu'il va y avoir des personnes qui vont protester. Ils vont dire que le salut peut être perdu parce que certaines personnes ou certaines circonstances pourraient nous faire abandonner ou permettre qu'il nous soit retiré, qu'il soit perdu. Alors Paul dit, d'accord, voyons qui sont ces personnes. Y a-t-il un ou des êtres humains qui peuvent enlever notre salut, qui peuvent avoir un pouvoir sur nous, une telle influence sur nous qu'ils puissent enlever ce que Dieu nous a donné? Ceci est compris dans la question à la fin du verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le « qui » fait référence à des personnes, à des gens. Y a-t-il vraiment une personne qui puisse vous retirer votre salut? Vous demandez qui pourrait bien vouloir cela? Probablement des gens mal intentionnés qui seraient offensés par notre christianisme. Peut-être notre conjoint, peut-être nos parents, peut-être nos enfants qui voudraient que nous ne soyons pas sauvés et seraient prêts à tout pour nous faire décrocher de notre passion. Et les enseignants? Le monde de l'enseignement, vous envoyez votre enfant à l'université? Pensez-vous que leur rôle est de partager la foi avec les étudiants? Qu'en est-il de l'endoctrinement immoral collectif de notre société? Pensez-vous que le but de la culture et de la société dans laquelle nous vivons est de stabiliser nos convictions en Jésus-Christ ou de les détruire? Toute la culture ambiante est contre nous. Il y a toutes sortes de gens parce qu'ils agissent dans le royaume des ténèbres, qui feraient tout pour nous séparer de notre foi et de notre salut. Les faux religieux le feraient aussi. Les dirigeants de sectes le feraient. Les faux enseignants le feraient. Et beaucoup le feraient, et un grand nombre d'entre eux ont de l'influence, de la puissance, de l'impact. Et pourtant, Paul dit, si Dieu est pour vous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que veut-il dire? Cette phrase est au conditionnel et commence par un « si ». Il s'agit d'une proposition conditionnelle qui devrait être traduite par « puisque ». Car il ne s'agit pas d'une probabilité, il s'agit d'un fait, une réalité factuelle, sous la forme d'une proposition conditionnelle qui devrait se lire ainsi. Puisque Dieu est pour nous, qui réussira à être contre nous? C'est un argument très simple. Quelqu'un est-il plus puissant que Dieu? Dieu a prédéterminé notre destinée éternelle en nous rendant semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit prééminent parmi de nombreux frères. Dieu a prédéterminé la fin dès le commencement. Et Dieu nous a appelés, justifiés, et il a promis de nous glorifier. C'est son dessein. Son Fils intercède pour nous à cette fin. Et nous savons ce que Dieu veut. Nous connaissons le plan de Dieu et le dessein de Dieu. Et de nous amener tous à la gloire, de ne perdre aucun d'entre nous et de nous donner cette vie éternelle qu'il nous a promis. Ainsi, nous ne périrons jamais. Et Jésus dit, personne ne les retirera de la main de mon Père. Et il s'agit de la promesse de Dieu, c'est son engagement. Et puisque Dieu est pour nous, quelle personne pourrait être plus puissante que Dieu? Paul a averti de ce que nous pouvons appartenir à une église. Nous pouvons appartenir à une organisation religieuse qui se prétend chrétienne. Et il dit malgré tout la chose suivante. Cet endroit peut être dangereux. Après mon départ, des loups viendront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. Et parmi vous, des hommes se lèveront en disant ces choses perverses. Dans quel but? Eh bien, afin de détourner les brebis vers eux. Certaines personnes dans les églises ont une apparence religieuse. Il y a aussi ceux qui peuvent être derrière un pupitre, d'enseigner, d'ébranler nos convictions, notre foi. Mais si Dieu est pour nous, sont-ils plus puissants que Dieu? Peu importe qui se dresse contre nous, Dieu est pour nous. Ne crains point. Je suis ton bouclier, dans Genèse 15, le verset 1. Dieu dit, l'Éternel est avec nous, Nombre 14, le verset 9. ne les craignez point. Dieu agit de façon positive afin que toute chose concoure à notre bien éternel. Et personne ne peut défaire cela. Si Dieu fait que toute chose concoure à notre bien, alors personne ne peut faire que les choses concourent à notre mal. Personne ne peut enlever notre salut, de délivrer de la condamnation indiquée dans le chapitre 8 au verset 1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Personne, aucun être humain, c'est notre premier point. Aucun être humain ne peut faire cela car Dieu est au-dessus de tout être humain. L'objection des humains tombe grâce à la simple affirmation de la fin du verset 31. Si Dieu est pour nous, qui réussira à être contre nous? Mais il y a peut-être une seconde possibilité. Dieu lui-même. Est-ce que Dieu peut reprendre notre salut? Le Seigneur donne, le Seigneur reprend, béni soit le nom du Seigneur. Peut-il reprendre notre salut? Peut-il changer d'avis? Peut-il être à ce point déçu de nous? Pouvons-nous pécher au point qu'il reprenne ce qu'il nous a donné? Il nous voit pécher, il voit notre désobéissance et il pourrait nous enlever la vie qu'il nous a donnée, tellement il en a ras-le-bol. Ne nous a-t-il pas donné la vie éternelle une fois pour toutes? Eh oui, il nous a régénérés. Nous sommes nés de nouveau. Il nous a donné une vie nouvelle. Est-ce que le fait que nous restions sauvés serait trop difficile? Paul répond à cela au verset 32 du texte que nous avons lu. Lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? L'amour de Dieu est si fort pour ceux qu'il a choisi de racheter qu'il donne son propre Fils, le meilleur, le plus grand, le plus pur et le plus divin, au prix fort, un coût très élevé, son propre Fils bien-aimé, afin de nous sauver. Ne pensez-vous pas qu'il fera tout pour nous garder? Dans Romains 5, lorsque nous avons été sauvés, nous l'avons été simplement par grâce. Et nous n'avons rien fait pour mériter cela. Romains 5, le verset 6. Nous étions sans force et impies. Alors Dieu a donné son Fils, Christ, afin qu'il meure pour nous, afin qu'il meure pour ceux qui sont sans force et pour les impies. Mais Dieu, dans le verset 8, prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions des pécheurs, misérables, perdus, aveugles, morts, impies, sans force. Et il a donné son Fils afin qu'il meure pour nous. Et maintenant nous sommes considérés comme justes. Au verset 9 du même chapitre 5, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Donc si Dieu a donné son Fils à la mort afin de rendre notre justification possible, ne pensez-vous pas que la vie du Fils de Dieu assurera notre glorification? C'est toute la question. Au verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et maintenant que nous lui appartenons, que nous avons été transformés en nouvelles créatures et que nous avons une impatience juste et une sainte affection pour lui, est-ce qu'il ne fera pas le nécessaire pour nous garder? De retour dans Romains 8, plusieurs éléments de ce verset sont merveilleusement profonds. Le verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, il ne l'a pas retenu. » En fait, Ésaïe 53 dit « Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir et il l'a soumis à la souffrance. Il n'a pas épargné son propre fils. » Dieu était prêt à faire cela pour nous. S'il a voulu donner le plus grand cadeau possible pour nous sauver, il fera tout pour nous garder. Il fera tout pour te garder. Donc on peut se dire, si personne ne peut retirer notre salut, si Dieu lui-même ne peut reprendre notre salut parce qu'il est déjà engagé en nous donnant le plus grand des cadeaux, peut-être y a-t-il une autre personne. Qu'en est-il de Satan? Peut-être que Satan peut le faire. Satan aimerait le faire. Il voudrait nous anéantir comme il a anéanti Job, ou du moins la foi de Job. Il voulait miner la foi de Pierre. Et Jésus dit, Pierre, attention, car Satan déclare te cribler comme le froment. Satan s'est placé devant Dieu dans le livre de Job. Et il a dit à Dieu, la seule raison pour laquelle Job est fidèle envers toi et que tu l'as béni, eh bien, retire sa bénédiction ou ta bénédiction et tu verras qu'il te maudira. Et j'anéantirai sa foi. Et Dieu lui dit, vas-y, fais ce que tu veux, sauf prendre sa vie. Et Satan agit. Tous ses animaux furent tués, tous ses enfants furent tués. Et même Job est tombé malade. Puis il a eu une poignée de stupides conseillers qui lui ont dit toutes sortes de choses qui n'étaient pas justes. Et il a été isolé dans la souffrance et la confusion parce que la conversation entre Dieu et Satan, il ne la connaissait pas. Il n'avait aucune idée, pendant que cela arrivait, quelle en était la cause, le motif. Mais au milieu de tout cela, Satan pouvait-il lui enlever sa foi alors qu'il avait tué sa famille, laissé à l'abandon avec une épouse plutôt toxique? Et lorsque Satan a enlevé tout ce que Job possédait, lorsqu'il l'a rendu si malade et couvert de furoncles et de plaies qu'il nettoyait avec un morceau de poterie, et là c'est probablement le genre d'extrémité qui nous ferait dire « si je dois perdre la foi, c'est maintenant ». C'est essentiellement Satan qui était le tourmenteur pendant tout ce temps. Et au milieu de tout cela, que dit Job? Quand même, il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Et cette foi ne peut être anéantie, car Dieu la maintient. Au milieu de tout cela, Satan ne peut rien faire. Satan est l'accusateur des frères et des sœurs. Et il vient semer la zizanie, il vient semer le doute. C'est ainsi que Satan agit tout le temps. Seul Dieu est juste et nous déclare juste. Et si Dieu déclare que nous sommes justes en Christ, il ne peut pas en même temps déclarer que nous serions coupables à cause de Satan. Il n'y a pas de juge plus haut placé. Et les croyants sont souvent sous l'accusation du malin. Satan est toujours en train d'essayer de mettre en cause notre salut, malgré l'amour de Dieu, malgré le fait que Dieu nous déclare juste. Mais Dieu a déjà rendu son verdict final, et le verdict final fondé sur son dessein souverain, sur l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. La provision de Christ par sa mort et sa résurrection activée par notre foi, et que nous avons été déclarés justes une fois pour toutes. Tout est réglé. Dieu est le seul juge. Dieu est le tribunal universel quand il s'agit du péché, du jugement et de la justification. Il n'y en a pas d'autre. C'est Dieu qui justifie son peuple. Charles Wesley a dit, « Brave, je me tiendrai en ce grand jour, car qui m'accusera ? Je suis pleinement absous du péché et de la crainte, de la culpabilité et de la honte. » Il pouvait dire cela selon le verset 33, que nous sommes les élus de Dieu. Alors qui accusera les élus de Dieu? Ceux qui étaient connus d'avance, prédestinés. Dieu a déjà déterminé leur justification. Lorsque Satan essaye de nous faire venir devant Dieu, nous n'y venons pas en tant que hors la loi ou en criminel, mais nous venons en tant qu'élus, élus de Dieu, déjà déclarés justes. Alors, in fine, y a-t-il des personnes qui pourraient ôter notre salut? Aucun être humain, ni Dieu, ni Satan. Il reste une seule possibilité. Qu'en est-il de nous-mêmes? Nous nous disons peut-être que nous connaissons de telles personnes. Et je ne mettrai pas la faute sur Dieu. Je n'accuserai pas non plus Satan. Ils étaient dans l'église. Ils croyaient. Ils chantaient les cantiques. Ils venaient aux études bibliques. Ils disaient qu'ils croyaient, puis ils ont renié Christ et ils sont partis. Ont-ils perdu leur salut? Est-ce vraiment le cas? Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourtant, ils nous paraissaient sauvés. Peut-être que certains font partie de notre famille. Certains sont nos proches. Et nous nous demandons, mais qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'en est-il de ceux qui se disaient croyants et qui semblaient croire et qui se sont retirés? 1 Jean 2, 19 nous donne la réponse. Et nous connaissons tous de telles personnes. Ont-ils perdu leur salut? L'ont-ils simplement abandonné eux-mêmes? Peut-être pour un temps. Écoutez, 1 Jean 2, le verset 19. 1 Jean 2, le verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Livrés parmi le blé, un sol rocailleux, un peu de vie commence à apparaître, pas de fruits, et il se dessèche et meurt. Un sol plein de mauvaises herbes, étouffé par l'amour du monde, la richesse et les préoccupations de cette vie. Nous connaissons tous de telles personnes. Mais elles sont sorties du milieu de nous parce qu'elles n'ont jamais été des nôtres. En fait, nous le savons. On ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a pas reçu. Quelqu'un qui n'a pas reçu le salut ne peut pas le perdre. Avoir ou ne pas avoir, c'est là la question, être ou ne pas être. Mais ceux qui sont de réels et véritables croyants, qui ont le témoignage de l'esprit dans le cœur, chez qui nous voyons les fruits de l'Esprit, selon Jacques 5. Leur amour pour le Seigneur, leur amour pour la vérité, pour la parole, leur amour pour les autres croyants, leur amour pour les choses qui sont saintes, pures et bonnes. Leur salut est assuré pour toujours. C'est le point culminant du ministère du Saint-Esprit en nous. Et si nous ne croyons pas cela, alors c'est une insulte à l'Esprit. C'est une insulte au Saint-Esprit en action dans la vie du véritable croyant. Et le Père a planifié notre salut éternel. Le Fils a pourvu à notre salut éternel. Et le Saint-Esprit participe, contribue à notre salut éternel. Aucune personne ne peut retirer notre salut. Jérémie 31, verset 3. Qui résume les choses ainsi, Dieu confirme ceci à nous ce matin. Je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu et mon âme se repose sur cette assurance. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nourrit notre âme, nous donne de la force, produit la joie, l'espérance même face aux difficultés de la vie. Merci pour l'œuvre puissante du Saint-Esprit qui nous assure de notre gloire éternelle. Nous savons que si nous sommes vraiment à toi, nous ne perdons jamais notre salut. Nous t'honorons Père, nous t'honorons Fils et nous t'honorons Saint-Esprit pour tout ce que tu as fait pour nous qui sommes indignes. Tout cela par grâce. Remplis-nous de ta joie, d'espérance et de motivation à te servir. Attire à toi ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas encore reçu ce cadeau du salut. Attire aussi à toi les faux semblants qui ne te connaissent qu'intellectuellement et qui ne font pas encore le pas de foi en toi. Qu'ils s'éveillent à la foi afin qu'ils puissent accepter Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur, nous te prions en ton beau nom. Amen.